Bienvenue dans l'émission Jazz Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un grand pianiste de jazz, Laurent De Wilde. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler évidemment de cet album New Monk Trio que vous présentez déjà depuis plusieurs mois sur scène, que vous avez, j'imagine, un grand plaisir renouvelé à jouer à chaque fois. Vous allez être sur scène justement au Sunside à Paris le 20 septembre au soir, mais également le 21 et le 22. Alors sur Art District, on fait gagner des places pour justement le 20 au soir, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de la radio artdistrict-radio.com pour essayer de gagner des places. Laurent De Wilde, juste pour vous présenter Fred Blanc d'abord, qui est ici aussi en studio avec nous. Fred Blanc est déjà venu une fois donc sur Art District pour nous parler de ses Sunday Jazz Loft. Alors ce sont des concerts dans une ambiance très intimiste. Francesco Berzatti, voilà, qui anime avec vous, enfin qui choisit en tout cas la programmation de ces après-midi jazz dans un appartement parisien. Donc c'est assez sympa. Il y a beaucoup de passionnés de jazz qui viennent.
Et tu étais venue une fois.
Et je suis venue une fois, voilà. Bon, on va tout dire. Fred Blanc, c'était très sympa de t'inviter la dernière fois. Donc je t'ai proposé aujourd'hui de co-animer cette émission parce que tu adores le jazz et tu vas, j'espère, j'imagine en tout cas, apporter un regard intéressant aujourd'hui dans la discussion avec Laurent De Wilde. D'ailleurs, j'ai juste une question. Pourquoi Laurent De Wilde et pas De Wilde?
Ou De Wilde.
Ou De Wilde.
Ou De Wilde.
Voilà.
J'ai tout entendu. Eh ben, c'est un choix à faire à un moment donné de son existence. Quand on a un nom de famille qui n'a pas de prononciation idéale. C'est un nom flamand. Hein, dans les Flandres, ils prononcent De Wilde, donc je dis De Wilde. Il y a un gardien de l'équipe de Belgique qui a marqué contre son camp dans le mondial dans les années 80. C'est un peu la honte de la famille. Et à l'époque, les commentateurs sportifs savaient ce qu'ils faisaient. Ils l'appelaient De Wilde. Voilà. Et j'ai également une sans doute très lointaine cousine qui s'appelle Mietke De Wilde et qui appartient à l'église pastafarienne de Belgique, réclamant le droit d'être prise en photo sur son permis de conduire avec une casserole sur la tête, non, une passoire sur la tête.
Alors, on va dire Laurent De Wilde.
Exactement.
Du coup, durant l'émission. On va parler donc de New Monk Trio, ce dernier album, nommé aux Victoires du Jazz 2018, également meilleur album de l'Académie du Jazz aussi.
Absolument.
Voilà, donc beaucoup déjà de presse et de reconnaissance. Je pose une première question, puis ensuite, voilà, Fred Blanc embrayera. Mais justement, est-ce que tu as une phrase à dire sur cet album ou un mot ou quelque chose qui te vient à l'esprit qui est sûrement un peu différent des albums précédents que tu as fait?
Accouchement. Lente gestation de 20 ans et accouchement au bout de 20 ans. Donc non, il n'était pas comme les autres, c'est clair.
Bon, alors super. Du coup, Fred, je crois que tu avais justement toi aussi beaucoup de questions.
Je suis content d'entendre le mot accouchement parce que moi, je vous ai connu par différents biais. Tout d'abord par le livre, par l'écriture, par le fait de pouvoir découvrir Monk au travers d'un ouvrage qui m'a plongé dans un univers jazzistique. Mais pas simplement, parce que s'il y a ça d'un côté, de l'autre côté, c'est le travail que vous avez fait avec Jacques Gamblin. Et une démarche qui m'intéresse pour d'autres raisons personnelles et créatives, c'est d'essayer de donner la parole au jazz, mais par d'autres biais que la musique ou les instruments. C'est-à-dire qu'imaginer que le corps ou la voix d'un Jacques Gamblin vient apporter autre chose et vient continuer ou réexprimer le jazz.
Absolument.
Et donc, voilà, moi, je vous ai un peu découvert là-bas. Et puis, je vous ai aussi... J'ai eu la chance d'avoir un monsieur De Wilde un jour sur Facebook. Et je lui ai demandé si je pouvais utiliser une de ses phrases. Et très gentiment, il m'a dit, mais il n'y a aucun problème.
C'était pour... c'était quoi la phrase?
Je ne me souviens plus de la phrase. Je me souviens pour qui je l'ai fait, puisque c'était pour un disque qui parlait aussi de Monk. C'était Monk & Roll de Francesco Berzatti.
Voilà, on tourne toujours autour du même pot, voilà, j'ai
exactement.
L'impression.
Et comme je l'avais aidé dans le lancement de son disque, tout le monde... Pour pour un concert qu'il était en train de faire.
Mais je me rappelle même dans la photo de Jazz Magazine, il y avait un grand article quand cet album est sorti de Francesco. Il était dans sa baignoire en train de jouer du saxophone et sur le coin de la baignoire, il y avait mon bouquin.
Peut-être.
Monk en édition originale.
Celle-ci, je ne l'ai pas vue.
Ouais, même dans la baignoire.
Francesco, c'est assez culturel.
Yes.
Donc voilà, donc en fait, je vous ai découvert au travers de aussi bien de l'écrit que de la réinterprétation, et moi ça m'intéresse. Et en reprenant votre disque, j'ai vu aussi qu'il y avait autre chose. Donc, on retrouvait un petit peu ce personnage-là. Donc si vous pouviez un peu
quel personnage
un peu, ce personnage multifacette, un petit peu français, américain.
Vous démo. Parlez de moi.
Il parle de vous là.
D'accord.
Oui, non, pas de Monk. Non, bah oui. La personne qui est un peu derrière le piano, il paraît.
Voilà, ok.
Le pianiste.
Non, mais c'est-à-dire que vous avez parlé de 20 ans de...
Ouais, 20 ans, parce que le bouquin est effectivement sorti il y a 22 ans maintenant. Et qu'à partir du moment où le bouquin est sorti, tout le monde m'a dit, quand est-ce que tu fais un disque Monk? Et effectivement, pour moi, c'était vraiment impossible. C'est très, très dur de décrire un génie sous toutes ses facettes. Et puis, de mettre ses pantoufles derrière, s'asseoir au même piano et dire, voilà, maintenant, je vais faire comme le patron. Donc, ça, c'était un truc que j'ai mis du temps à envisager. J'avais une couverture de Time Magazine qu'il a faite en 64 où il regarde comme ça, c'est une peinture où il a un petit chapeau un petit peu imposant et il regarde le spectateur d'un œil sévère. Et ça, c'était le tableau que j'avais devant moi pendant que j'écrivais le bouquin. Puis après ça, le bouquin a été écrit, il est sorti, puis le tableau, il est resté. Et il a continué de me regarder comme ça pendant 20 ans. Donc c'est vrai que c'était difficile d'aller jusqu'au bout de cette idée. Alors, qui sait, quand vous parlez du personnage, je ne sais pas très bien... je ne sais pas très bien qui je suis, autrement qu'en repérant rétrospectivement mes façons de me répéter. Et en fait, c'est drôle parce que on découvre, on ne peut pas échapper à son style. On découvre son style rétrospectivement, c'est-à-dire on fait des choses qui restent et puis on les réécoute 20 ans après, on dit « Ah bah ouais, finalement, je dis toujours la même chose de la même façon. Bon. » Donc ça, c'est ce qui s'appelle le style. Et on ne peut pas y échapper. Je pense. Donc oui, je voulais mettre Monk à l'intérieur de mon style et pas déployer une énergie inutile à me mettre moi dans le sien, puisque de toute façon, c'est impossible dès le départ. Et comme disait mon lointain ancêtre Oscar Wilde, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre,
c'est, vrai,
c'est déjà pris.
mais quand vous dites tout ça, moi j'entends aussi, vous avez écrit une phrase dans votre livre qui dit « Avec Monk, on va toujours quelque part, même si la surprise vous attend au bout ». Donc c'est vrai que quand on rentre dans votre disque, on s'aperçoit qu'il y a les influences d'autres musiques, qu'on est baladé ailleurs, qu'il y a une forme de modernité et que vous n'avez pas répété Monk. De toute façon, je pense que c'est
oui, totalement mission impossible, absolument.
Mais d'avoir comme ça un peu Dieu au-dessus de soi... C'est pas difficile pour faire...
Mais si, c'était ça la difficulté, ouais. Bon, maintenant, c'est fait. Et puis bon, c'est sûr qu'il doit se retourner dans sa tombe, mais bon, heureusement, finalement, qu'il est mort, parce qu'il peut plus m'engueuler, quoi.
Et vous l'avez rencontré ?
Non, jamais, j'étais trop jeune quand il était déjà sorti de l'œil public.
Et quand vous parliez de style, est-ce que le fait d'avoir appris le piano jazz aux États-Unis, d'avoir passé beaucoup de temps là-bas, ça vous a un peu nourri différemment ?
Oui, bien sûr, bien entendu.
Au niveau de la sonorité, par exemple.
Se nourrit de ce qu'on a autour de soi. Et bon, c'est clair que les 8 ans que j'ai passé là-bas ont eu une importance considérable. Puis surtout, c'était vraiment le moment où j'apprenais, quoi. Où on
oui, c'est pour ça, c'est vraiment l'apprentissage. Ouais.
Mais je dirais qu'il y a. Alors ça, c'est clair que c'est un style. Mais après, il y a une sorte de méta-style, c'est-à-dire au-dessus d'une façon un peu générique d'aborder la musique, le jazz, le piano, contrebasse, batterie, voilà, c'est une sonorité qu'on connaît, qui est bon. Alors à l'intérieur de ça, voilà, je me suis rendu compte que effectivement il y avait des choses que j'aimais bien, une esthétique du trio qui me plaisait, dans laquelle je me sentais à mon aise, et donc c'est un peu comme ça. C'est vrai que c'est un peu un acid test, donc c'est-à-dire que quand on joue des morceaux, donc il y a toujours, ça vient toujours avec une question: qu'est-ce que toi t'as à dire là-dessus. C'est obligé, parce que sinon c'est du temps perdu.
Alors justement, en parlant de trio, on va peut-être citer quand même vos deux acolytes. À la contrebasse, c'est Jérôme Regard, et à la batterie, c'est Donald Contomanou. Et puis, on va peut-être faire la première pause musicale. Fred, on écoute quel titre ?
Bah, c'est One Midnight. Ah, j'ai essayé vaguement de toucher ça de mes tout petits doigts et c'est juste complètement dingue. Et quand j'ai écouté votre interprétation, on part dans des endroits qui sont tellement loin. Oh, on est presque dans de la musique indienne à un moment, on est dans l'électro à un autre moment. Et puis on y revient et puis à un moment, mince, il l'a aussi, il a tout dit quoi. Ça y est, c'est là.
Et on écoute tout de suite du coup One Midnight et on se retrouve juste après. Retour dans l'émission Jazz Interview avec Laurent De Wilde aujourd'hui à nos côtés, avec également Fred Blanc, donc fondateur, créateur des Sunday Jazz Loft, également photographe et amour du jazz évidemment. Donc on parle depuis le début de cette émission de Monk, surtout avec vous Laurent De Wilde, puisque c'est votre grand homme je crois dans votre vie. Donc Monk, Peut-être, Fred Blanc, avez-vous encore quelques questions pour percer le mystère Monk et Laurent de Wild.
Bravo. De Wild.
Oui, parce j'ai vraiment envie de dire de Wild, mais je me retiens et du coup, voilà.
Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai remarqué que les gens qui étaient bien disposés à mon égard m'appelaient de Wild et ceux qui étaient mal disposés m'appelaient de Wild. C'est un détecteur assez rapide.
C'est très gentil de dire ça.
Je suis assez embêté parce que jusqu'à il y a deux jours, je l'appelais de Wild. Depuis que je sais que je viens vous interviewer, je vous appelle de Wild. Qu'est-ce qui va se passer demain?
Ah bah, s'il se passe de Wild, là, c'est fini entre nous.
J'ai envie de citer une deuxième phrase que vous avez dite, bon, que vous avez écrite plutôt. Monk, j'ai jamais deux chapeaux identiques. Pareil à lui-même, toujours il change. En fait, ce n'est pas un chapeau qu'il a sur la tête, c'est une idée de chapeau. C'est un peu ce que j'ai eu la sensation de retrouver dans votre disque.
Oh là, bah merci, alors je ne l'avais pas vu arriver celle-là. Bah écoutez, je suis forcé d'assumer parce que c'est ma musique et ma citation.
Si vous écrivez, vous faites de la musique, j'y peux rien.
Mais je voudrais rebondir juste sur ce que vous avez dit, Julie. Le grand homme dans votre vie. Ça a été le grand homme sur lequel j'ai travaillé littérairement et musicalement aussi. Mais musicalement, il y a beaucoup de gens qui m'ont vraiment impressionné aussi fort que Monk. Et je pensais en particulier à Ahmad Jamal, ou plutôt Ahmad Jamal, qui va sur ses 80... Il a presque 90 ans, il pète le feu, c'est incroyable. Bon. Et c'est, voilà un gars, je pense que, comment dire, un amateur de Jamal, il m'entendra dans ce disque sur Monk, il dira, ah ouais, bah, c'est pas un disque Monk, ça, c'est un disque Jamal.
Mais alors, vous allez bientôt écrire un livre aussi sur lui, parce que je le lirai.
C'est quelqu'un de très intéressant, extrêmement secret. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, très chaleureux, très extrêmement timide, très secret, et comme souvent les très grands timides, sujet à des accès d'orgueil en pointe absolue. Quoi.
Alors que dans sa musique, on sent le côté timide et réservé, je trouve.
Enfin, il déchaîne.
On ne sent pas du tout l'orgueil.
Ah si, il déchaîne la tempête et tout ça.
Mais c'est pas dans l'orgueil, je trouve.
Ah oui, mais c'est de bon. Enfin, il y a de la colère. Hein, y a du... J'aime bien.
Alors justement, pour revenir sur peut-être des personnes qui vous ont marqué ou des événements qui vous ont marqué dans votre vie d'artiste, hein, au sens assez large, ça peut être une rencontre avec un autre artiste ou un lieu ou une émotion que vous avez eue en écoutant une musique. Est-ce que vous avez un souvenir à nous faire partager ici qui revient souvent à votre mémoire?
Celui qui revient immédiatement parce qu'on est à l'intérieur de cette discussion, mais enfin j'imagine que par un autre chemin il y a d'autres souvenirs, c'est justement Jamal que je vais interviewer chez lui upstate New York, enfin dans l'état d'à côté. Et donc il est musulman, pratiquant, très pratiquant, puis on retire ses chaussures en arrivant, et puis il me propose une paire de slipettes qui n'étaient pas bien un truc, il me dit bon, elles te vont pas celles-là, bon bah écoute, vas-y, t'as qu'à prendre les miennes. Et il me donne ses pantoufles, quoi. Et je me mets dans les pantoufles d'Ahmad Jamal. Et là, déjà, j'ai un premier frisson. Et il me dit, tu veux un thé, un café, qu'est-ce que je te fais tout? Je dis, ah bah, un café volontiers. Ok, bouge pas. Bah, tiens, regarde, va dans la pièce là-bas. Je vais dans la pièce à côté. Et il y a, la pièce est quasiment exclusivement occupé par deux grands Steinway D que complètent. C'est-à-dire on était vraiment obligé de se faire tout fin le long du mur pour pouvoir accéder à l'un ou à l'autre avec une porte de chaque côté, c'était drôle. Et il dit, vas-y, assieds-toi, joue, regarde, dis-moi ce que t'en penses. Et je commence à jouer You've Changed. Et là, j'entends de la cuisine, il est en train de laver les tailles, il se fait, ah ouais, You've Changed, j'adore, très bon morceau. Et là, je dis, est-ce que je suis vivant, est-ce que je suis mort, je sais plus très bien. C'est le rêve, en tout cas.
Donc, grande émotion, évidemment.
Ouais, carrément.
Et sur votre rapport à l'écriture, que ce soit l'écriture musicale ou l'écriture littéraire, j'ai vu que vous tenez un blog, enfin, il y a marqué blog hein, sur votre site internet, et j'ai l'impression que c'est des écrits que vous postez assez régulièrement. Est-ce que ça, c'est important blog, d'écrire ça... aussi pour
ouais,
vous?
Alors le blog, malheureusement, ça fait une bonne demi-douzaine d'années que je n'y touche plus. En fait, ça date de l'arrivée de Facebook.
Ah oui, d'accord. Donc je suis très en retard.
mais où étiez-vous, quoi?
Je n'étais pas encore là, en tout cas.
Non, c'est parce que dans mon site, effectivement, comme c'est des écrits, je les ai consignés là-dedans, on peut les voir, mais effectivement, l'activité Facebook réclame un peu une attention permanente et m'a coupé l'herbe sous le pied. Écrire, oui, oui.
Oui, c'est une manière de vous demander tout simplement, en si l'écriture est aussi importante pour vous, l'écriture, la composition musicale ou bien l'écriture littéraire.
J'aime écrire, j'aime beaucoup écrire, c'est une petite bulle, c'est magnifique, j'ai un bureau qui peut se clipper en mode debout et je peux écrire comme ça pendant toute la journée debout avec une chaise.
En courant aussi, en faisant du sport.
Non mais ça maintient, c'est très agréable d'écrire debout. Et puis alors quand je suis un peu fatigué après le déjeuner, on peut le redescendre et écrire ainsi. Mais c'est un exercice solitaire, c'est un peu comme du piano solo, ouais, j'imagine. Mais ça a les défauts des avantages, c'est-à-dire qu'on est dans une bulle. On arrête de communiquer avec l'extérieur, on se regarde le nombril toute la journée et on met ça en mots les plus beaux qu'on peut. Et donc ça, c'est bien, c'est parfois même un métier, ça s'appelle écrivain. Moi, ça ne me tente pas du tout, je suis très content d'être musicien et l'expérience de jouer avec des musiciens, justement, j'aime pas tellement faire de solo, enfin j'en fais de temps en temps, mais un peu contraint et forcé. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'échange en real time. Quoi.
Bah, c'est super parce que ça nous fait une jolie transition, parce que je crois que Fred Blanc avait une question justement sur le piano solo.
Bah, c'est vrai, vous... Il semble que vous préférez jouer en groupe qu'être seul, y en a d'autres qui aiment le piano solo. Et pourtant, dans le disque que vous avez réalisé, la seule musique que vous avez écrite, c'est un piano solo.
Oui, parce que l'univers piano solo de Monk est un truc à part, qui peut peut-être plus facilement... Je dirais s'imiter, s'émuler. On peut retrouver plus facile. On peut tricher un petit peu pour faire comme si. Et c'est un morceau qui a l'air très simple, avec une mélodie idiote et des accords qui changent sans arrêt. Et 20 ans après, je ne sais toujours pas jouer ma propre composition. Et c'est ça qui me réjouit et qui me donne envie de la jouer. C'est parce que c'est exactement comme une composition de Monk. C'est qu'on n'a jamais l'impression d'avoir fini de la jouer quoi, comme il faut. Donc, en piano solo... pour moi, c'est toujours très joyeux, très malicieux, très drôle, Monk en solo. Même quand ça peut être très émouvant, mais c'est toujours drôle, c'est drôle et profond. Alors voilà, j'essaie de taquiner un peu ça.
Donc en fait, c'est peut-être un peu ce que vous avez écrit, parce qu'en conclusion sur ce piano solo...
Ne me dites pas que vous avez une citation de moi.
Il a vraiment bien lu le livre.
Je ne l'ai pas lu en deux jours, je l'ai lu il y a longtemps. C'est incroyable, même quand il accompagne, Telunius est un soliste.
Absolument, ouais. C'est tout à fait vrai.
Donc ça, c'est une jolie formule, en effet, pour dire que finalement, le piano, même sur scène, il est un peu à part. Donc le pianiste est toujours un petit peu dans sa bulle, finalement.
Oui, c'est quand il est en solo, là, c'est clair. Mmh. Quand c'est le piano tout seul, ça, c'est la bulle. Mais quand il est... C'est un gros meuble, le piano. Effectivement, c'est un obstacle.
On est derrière, on est un peu caché.
Et en plus, c'est un instrument qu'on touche avec le bout de la peau de ses doigts. C'est très abstrait comme instrument. Puis on joue pas, on appuie. C'est on-off. Le batteur, le bassiste, ils envoient une pulsation constante, quoi, qui leur permette de rester dans le truc. Nous, on est sans arrêt on-off. Donc, c'est très... c'est vrai que c'est... déjà difficile de partager avec les autres quoi. Mais dans le cas de Monk lui je sais plus si je l'ai dit dans le bouquin, mais et si je l'ai pas fait je le regrette, parce que comme dit le proverbe, il y en a à qui le piano donne du mal, mais Monk lui il donne du mal au piano quoi.
Si vous l'avez pas dit, je l'ai entendu dans une de vos interviews.
Alors Monk, évidemment, vous avez fait le tour. Bon, même si je pense qu'on n'a jamais fait le tour de Monk, évidemment. Il y aura encore du Monk dans la vie de Laurent De Wilde prochainement.
Ben ouais, j'espère, bien sûr. Bah écoutez, ce matin même, j'étais en train de re-regarder un que je jouais il y a 25 ans et que je n'ai plus joué depuis. Et que je trouvais très marrant. Il y a toujours des trucs à faire.
Merci beaucoup Laurent De Wilde de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Merci Fred Blanc d'avoir été avec moi dans cette émission en co-animateur. Donc je rappelle New Monk Trio, dernier album récent de Laurent De Wilde. On vous retrouve évidemment sur scène encore pendant plusieurs semaines avec cet album et donc ce trio. Prochainement, c'est au Sunside à Paris le 20 septembre et le 21 et le 22, trois dates.
Absolument. La troisième date avec un personnel différent. Les deux premiers, c'est avec Donald Contomanu et Jérôme Regard, comme vous l'avez dit. Et le samedi, c'est avec le très prometteur Arnaud Dolmen à la batterie et mon vieux compère Bruno Rousselet à la contrebasse.
Voilà, donc à ne pas manquer. Également, si vous voulez gagner des places, donc je le répète, vous pouvez aller sur notre site internet artdistrict-radio.com. Et puis on va se quitter donc avec vous, Fred Blanc. Je rappelle aussi que votre prochain Sunday Jazz Love, ça sera en décembre, mais on aura le temps d'en reparler.
Faut attendre.
Voilà.
Pour savoir sa véritable date.
Et Fred, donc on se quitte en écoutant Tune 40, deuxième titre
le solo
de l'album de Laurent de Wilde.
Le seul.
Le fameux solo. Très bon après-midi à tous sur Art District.